Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, il est temps que nous entrions dans l'étude du sacrement de confirmation qui va nous faire pénétrer, évidemment, beaucoup plus loin dans la beauté de la vie chrétienne que ne l'avait fait le baptême qui, malgré toute sa noblesse, n'est encore que la porte des sacrements. Il y a une analogie, c'est-à-dire une comparaison, à faire entre la vie naturelle et la vie surnaturelle. À chaque étape de notre vie, de la naissance à la mort, il y a un sacrement qui correspond, voulu par Jésus-Christ, justement pour nous faire entrer à chaque étape plus profondément dans la vie divine de notre âme, dans la vie surnaturelle. La première étape, c'était donc le baptême, qui est la naissance. Et après la naissance, il faut grandir pour atteindre l'âge adulte, et c'est ce que fait le sacrement de confirmation. Il nous fait entrer dans l'âge adulte chrétien. Le catéchisme nous dit que le sacrement de confirmation fait de nous, premièrement, des parfaits chrétiens, deuxièmement, des soldats du Christ et de l'Église, troisièmement, il nous donne l'abondance des dons du Saint-Esprit. Et nous verrons que ces trois choses sont en réalité trois aspects d'une même réalité, mais n'anticipons pas. Parfait chrétien, qu'est-ce que ça veut dire parfait chrétien? Il faut revenir sur l'importance de l'orientation du chrétien vers la vie de l'Église. Le chrétien qui cherche sa perfection ne cherche pas une perfection personnelle. Je vous en ai déjà parlé à propos de la vertu de force. Je vous en ai parlé, je crois, à propos du baptême. J'y reviens parce que cela devient plus clair maintenant. C'est évident. Puisque nous entrons dans un sacrement qui confirme le baptême, il nous fait avancer plus loin dans la vie chrétienne. Nous faire avancer plus loin dans la vie chrétienne, il faut que nous comprenions bien ce qu'est la vie chrétienne, et cela nous aidera à mieux la comprendre. C'est la question du personnalisme et du bien commun. Ne vous inquiétez pas, mes bien chers frères, ces mots difficiles, je vais vous les expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un parfait chrétien? C'est quelqu'un qui vit de la vie de l'Église, qui vit en union avec la Sainte Trinité, qui participe à la communion des saints. Il faudrait faire attention, vous voyez, à une mauvaise interprétation, par exemple, du principe et fondement des exercices de Saint Ignace. Saint Ignace nous dit: l'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu et par ce moyen sauver son âme. Si on a une vue très personnelle, et c'est très courant aujourd'hui, c'est une hérésie qui est très courante parce que nous n'avons plus le sens de la société. Si nous avons une vue personnelle des choses, alors nous mettons le salut à notre service, nous mettons Dieu à notre service. La vie chrétienne consiste à obtenir l'aide de Dieu pour un salut personnel. Si au contraire, nous avons la vue normale des choses, qui était tout à fait classique, évidente pendant longtemps, pendant des siècles et des siècles, alors c'est exactement l'inverse. Nous nous orientons vers un bien qui nous dépasse et pour lequel Dieu nous a fait. Aristote dit que la nature, c'est la fin, c'est-à-dire que nous poursuivons une fin pour laquelle nous sommes faits, mais justement, tant que nous ne sommes pas à cette fin, nous sommes encore en chemin. Or, cette fin, elle est commune à tous les chrétiens. Cette fin, c'est de vivre dans la Sainte Trinité. Le baptême nous a incorporés dans le Christ et, par conséquent, dans le corps mystique du Christ, c'est-à-dire dans l'Église. Nous sommes devenus membre du corps de Jésus-Christ. Le corps ne vit pas pour le membre, c'est le membre qui vit pour le corps. Et même le corps vit pour l'âme, le membre vit pour l'âme. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. Nous sommes entrés dans quelque chose qui nous dépasse, et ce bien que nous le poursuivons avec tous les chrétiens. Si l'homme est un être social, s'il vit en société, c'est pas parce qu'il a besoin de la société pour arriver à une perfection personnelle, c'est parce qu'il partage le même idéal que ses congénères, et lorsqu'il s'agit de la vie surnaturelle, il partage la même foi, la même croyance dans le même Dieu, la même espérance d'aller au ciel, la même charité qui est un amour de Dieu. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence entre le baptême et la confirmation? Puisque c'est dès le baptême que nous sommes incorporés à Jésus-Christ, membres du corps mystique, membres de l'Église, et tout ce que je viens de vous dire. La différence, c'est que l'enfant est orienté vers le bien de l'Église, mais sans être autonome. Et même, il reçoit plus qu'il ne donne. Tandis que le confirmé est autonome, et par conséquent, il est actif, et il donne plus qu'il reçoit. Vous voyez, durant l'enfance, le petit homme fait l'apprentissage de ce bien commun. Il apprend à servir Dieu, l'Église, à servir des causes qui sont plus grandes que lui. Et justement, dans l'enfance, il apprend à ne pas être égoïste, à ne pas se considérer soi-même, à ne pas se prendre pour le nombril du monde. Et il apprend à découvrir, à connaître, à aimer et surtout à s'orienter vers ce bien qui les dépasse. L'adulte, lui, est autonome. Il a compris toutes ces choses-là, et non seulement il les a comprises, mais désormais il peut travailler pour le bien de l'Église. L'importance de cette doctrine du bien commun a des conséquences pratiques. Première conséquence, je vais vous donner quelques exemples, mais il y en a d'autres. Soit on participe au combat de l'Église quand on est confirmé, soit, si l'on n'a pas compris, on cherche à tirer son épingle du jeu sans trop de casse. Que ce soit par rapport au monde moderne qui nous persécute, que ce soit par rapport aux problèmes dans l'Église, les épreuves de l'Église. Il y en a un qui cherche à se protéger et l'autre qui n'a pas peur du combat. Nous verrons l'importance du combat tout à l'heure. Par exemple, également, dans l'éducation, celui qui est personnaliste, celui qui voit d'abord le bien de l'enfant, cherche à le protéger. Il ne voit la vie que par rapport à son enfant, tandis que celui qui a le vrai sens de la vie chrétienne considère que l'éducation est une formation au combat, pas seulement théorique, mais également pratique. Et par conséquent, on fait entrer l'enfant dans le monde, tout en l'accompagnant, bien entendu, jusqu'à ce qu'il puisse être autonome dans le monde. Et alors, autonome, nous allons voir, c'est pas seulement arriver à se débrouiller, c'est participer au combat de l'Église. Une autre conséquence, une autre illustration, si vous voulez, de cette hérésie personnaliste qui s'oppose au service du bien commun, les traditionnalistes qui cherchent seulement à être reconnus tels que nous sommes, disent-ils, ce sont des personnalistes. Tandis que Mgr Lefebvre, lui, cherchait à faire disparaître le vice et l'hérésie moderniste, ce qui est tout à fait autre chose. Mgr Lefebvre se mettait vraiment au service de l'Église. Deuxièmement, le sacrement de confirmation fait de nous des soldats du Christ. Il y a un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus complet, dans l'ordre surnaturel que dans l'ordre naturel, entre adultes et soldats. Vous voyez, dans l'ordre naturel, on ne peut pas définir l'adulte comme un soldat. Parce qu'on ne peut pas définir la société par rapport à la guerre. Une société naturelle n'est pas toujours en guerre, ça n'est pas nécessaire. parce que la guerre est un désordre. Il est nécessaire de l'amener, de mener cette guerre quand il faut le faire, mais on n'est pas, heureusement, pas toujours en guerre. Tandis que l'Église, elle, ne sera parfaite qu'au ciel. Et donc l'état normal achevé de l'Église dans la paix du Christ, ce sera au ciel, et ici-bas, elle est dans le combat. D'ailleurs, Église militante veut dire Église combattante. Militant, c'est le terme qu'a donné militaire. Cela veut dire Église combattante, c'est la même chose. Elle est constamment en effort de défense contre ses ennemis. Ça, c'est le premier effort du combat. Elle se défend, c'est le plus visible, mais également en effort de conquête pour étendre le règne du Christ. Allez, a dit notre Seigneur Jésus-Christ, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Le parfait chrétien est donc nécessairement un soldat du Christ et de l'Église, un soldat contre les ennemis et un soldat pour étendre le règne du Christ. Bien sûr, l'Église a déjà une paix ici-bas, mais c'est une paix relative. C'est-à-dire, c'est une paix essentielle, qui va jusqu'au fond des choses. C'est une paix qui suffit largement, mais cette paix s'accompagne de combats. Alors qu'au ciel, il n'y aura que la paix, il n'y aura plus de combats. Cette paix que nous possédons, déjà, c'est important de le dire, parce que s'il n'y avait que le combat, s'il n'y avait pas la paix dans notre âme, justement, donné par le Saint-Esprit, nous allons voir ça, le troisième fruit, mais au sermon suivant, parce que sinon ça serait trop long. Le troisième effet de la confirmation, c'est de nous donner le Saint-Esprit avec l'abondance de ses dons. Et donc le Saint-Esprit nous donne la paix, c'est quasiment le premier fruit du Saint-Esprit, la paix et la joie. Cette paix et cette joie viennent du Saint-Esprit, elles viennent de la foi, elles viennent de notre attachement à Dieu, de notre amour de Dieu. Il faut que je vous dise, cela, je pense, vous aidera à mieux comprendre ce qu'est le combat chrétien. Il faut que je vous parle de la place de la femme dans le combat. Cela va peut-être vous surprendre, mais c'est important. Dans l'ordre naturel, elle est mère, elle forme l'enfant, ce qui suppose un climat de paix. C'est pourquoi une femme soldat est une monstruosité. La mère doit veiller à la paix dans le foyer familial. La mère n'est pas que cela, parce que tant que son enfant n'est pas adulte, il n'est pas qu'enfant, il passe aussi par l'adolescence, et progressivement, elle l'encourage, elle le mène vers les combats d'adultes, vers l'autonomie de l'adulte, et l'autonomie, je vous l'ai dit, est une autonomie active. C'est pas l'autonomie de celui qui sait se débrouiller. C'est l'autonomie de celui qui sait mener les combats, qui sait entraîner les autres, qui sait former les autres et les entraîner. Et cela, la mère le fait. Elle donne le sens du combat à son enfant, surtout à son adolescent. Quant à l'adulte, la femme le soutient, elle l'encourage, son homme, son mari, parce que les autres adultes, elle n'a pas à s'en occuper. Si, peut-être Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand même, qui avait une âme très virile. Et justement, parce qu'elle n'était pas mariée, elle participait au combat de l'Église, c'est pourquoi Pie XII l'a nommée patronne des missions. Parce que justement, elle est un modèle de ce combat mené par une femme dans l'Église. Donc, je vous disais, la femme, par rapport à l'homme, l'homme adulte, elle l'encourage, elle ne prend pas les armes, bien entendu, mais elle le soutient, et l'homme veut être fier de la femme, et il veut que la femme soit fière de l'homme. Cela redouble son ardeur au combat. Dans l'ordre surnaturel, c'est-à-dire dans l'ordre de la vie divine, au contraire, toutes les jeunes filles sont des vierges guerrières, toutes les femmes sont engagées dans la lutte. Saint Jean Chrysostome, qui est cité par saint Thomas d'Aquin, citation, « Dans les combats pour le ciel, le stade est ouvert, hein, le stade dans lequel on fait la course, le stade est ouvert à tous, sans distinction de personne, ni d'âge, ni de sexe. Et le même saint Jean Chrysostome enseigne également, devant Dieu, même le sexe féminin livre bataille. Beaucoup de femmes ont combattu avec courage, un courage viril, dans la milice spirituelle. Et dans la lutte du martyr, certaines ont égalé les hommes par la force, elles ont été l'égale des hommes par la force de l'homme intérieur. Certaines femmes ont été les égales des hommes par la force de l'homme intérieur, c'est exprès qu'ils disent cela. Certaines même ont été plus courageuses que les hommes. Fin de citation. Et de fait, l'Écriture sainte nous donne l'exemple de Judith, d'Esther, Judith qui a coupé la tête d'Holoferne, Esther qui a risqué sa vie pour le salut de son peuple, et puis le Saint-Esprit a suscité une Sainte Jeanne d'Arc. Vous allez me dire, mais justement, Sainte Jeanne d'Arc a pris les armes. Or, je viens de vous dire qu'une femme soldat, c'est une monstruosité. Attention, Sainte Jeanne d'Arc, d'abord, n'a pas pris les armes. Elle a encouragé les combattants, ce qui n'est pas pareil. Bien sûr, elle était sur un cheval de bataille, mais elle avait un étendard, une épée qui n'a jamais servi, qui était relativement symbolique. Et puis elle menait essentiellement un combat chrétien. Il s'agissait de rendre confiance en Dieu au peuple de France qui avait perdu confiance en Dieu, au roi de France qui avait perdu confiance en Dieu. Dieu a voulu éviter, un siècle à l'avance, que la France tombe plus tard dans le protestantisme, ce qui serait arrivé si la France avait été conquise par les Anglais, qui un siècle plus tard sont tombés gravement dans l'hérésie protestante. Et donc le combat de Sainte Jeanne d'Arc est le même combat que celui d'Esther et de Judith, à qui d'ailleurs elle a souvent été comparée. Il en va de même pour les enfants, dont on ne peut pas faire des guerriers dans l'ordre naturel. Un enfant guerrier, c'est une monstruosité. De même les vieillards, on ne peut pas en faire des guerriers, pas pour les mêmes raisons que les enfants. Mais ils ne sont pas aptes. Et puis parce que le vieillard est quand même plus proche de la vie éternelle, il est sorti des combats d'une certaine manière, il n'a pas à y revenir, c'est pas seulement qu'il est plus faible. Bien sûr, un vieillard est plus faible. Mais pourquoi le bon Dieu permet-il que le vieillard soit plus faible? Parce qu'il a une vie intérieure plus intense et qu'il n'a plus besoin du combat extérieur. Ceci dans l'ordre naturel. Tandis que dans l'ordre surnaturel, les enfants, dès qu'ils sont confirmés, sont des guerriers. Et saint Thomas d'Aquin nous expliquera que quelquefois le Saint-Esprit donne ses dons avant même la confirmation, et on le voit pour certains martyrs non baptisés. Je vous en ai parlé au sermon de dimanche dernier sur le baptême du sang, le baptême de désir. Quelquefois, le Saint-Esprit donne l'ardeur au combat même à des non-baptisés, et même quelquefois à des enfants non-baptisés, quelquefois. En tout cas, dans l'ordre pas seulement spirituel, mais surnaturel, chrétien, de la vertu, un enfant peut être un soldat, et dès qu'il est confirmé, il doit être un soldat. C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'enfants martyrs, mais pas seulement. Sainte Bernadette, par exemple, lorsque la Vierge lui apparut, était encore un enfant, une adolescente, disons, et elle a eu à mener des combats terribles pour faire admettre la réalité des apparitions. Vous avez les petits-enfants de Fatima, qui ont eu à faire preuve de beaucoup de force et de combat pour faire admettre également la réalité des apparitions. Ils ont même cru, une fois, qu'ils seraient martyrs et plongés dans une chaudière d'huile bouillante. C'était pour leur faire peur, mais ils l'ont cru toujours. Vous avez également saint Dominique Savio, par exemple, qui fut un enfant, un adolescent, très zélé pour le règne de Dieu, très zélé. Il avait fondé, lui, c'est pas saint Jean Bosco, saint Jean Bosco l'a encouragé, bien entendu, et l'a validé ce qu'il a fait. Mais il avait fondé la Compagnie de l'Immaculée, dans laquelle il recrutait ses camarades pour étendre le règne de Dieu. Ces deux aspects, vous voyez, ne font qu'un. C'est la même chose d'être un parfait chrétien et d'être un combattant pour le règne du Christ. La prochaine fois, nous verrons que ces deux choses sont unies dans les dons du Saint-Esprit qui fait la synthèse de la perfection et de la lutte pour le royaume de Dieu. Demandons à la Sainte Vierge qu'elle vous donne cette vigueur qui est tellement importante, surtout aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.